Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Salut Maud.
Salut.
Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour pour les fans de Pokémon. Bienvenue donc dans ce troisième épisode, dites donc.
Déjà.
Trop heureux de passer l'été avec vous, hein, alors que nous, on vient de passer littéralement 5 minutes entre chaque épisode. Mais en tout cas, on vous imagine sur la plage, à la montagne, ou peut-être en train de travailler avec une perspective d'être en vacances tôt ou tard. Hein. En tout cas, on vous le souhaite.
On vous le souhaite.
Et on a envie de parler avec vous de comment on s'en est sorti pour bâtir un succès, entre guillemets, et sur le long terme. Maud, tu es autrice à succès. Bienvenue.
Merci.
On vous invite à aller écouter l'épisode de Maud dans Histoire de succès parce que son histoire est super et qu'on va bientôt pouvoir faire un nouvel épisode à la sortie du deuxième roman. Et d'aller écouter l'intro de cette série hors série, si vous voulez en savoir plus sur nos intentions. Aujourd'hui, on va parler de, une fois que le projet est lancé, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe votre vie, comment vous vous lancez, etc., etc. Enfin, pas comment vous lancez, mais comment vous organisez votre vie une fois que le projet est lancé et que vous avez fait ce fameux saut dans le vide dont on parlait la semaine passée.
Le ventre mou, c'est maintenant.
T'appelles ça le ventre mou, toi ?
Ouais, ou le milieu de la plaine. Tu vois, t'es tombé amoureux de ton idée, donc t'as eu des petits guilis dans le ventre, t'es à fond. T'as écrit les premières pages de ton livre, ou alors t'as écrit sur un ordinateur, t'as écrit un petit dossier avec écrit café, lecture, ou entreprise de Pokémon. Bref, t'as lancé ton petit dossier, t'as créé ton petit truc, et il y a un peu le... Et après ? C'est bien tout ça, et on fait quoi après ?
La première question que tu avais notée, c'était comment trouver le temps et organiser son temps pour son idée.
Ah là 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 là, le temps. Je trouve que c'est une question, moi, qui me fascine, parce que c'est quelque chose qui revient souvent de « j'ai pas le temps ». J'adorerais écrire un livre, notamment dans l'écriture, parce que c'est une activité qui prend un temps pharaonique, en fait. C'est très 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 lent et long d'écrire. Et donc, il y a ce côté...
Attends, excuse-moi, mais c'est lent et long pour tout le monde ?
Non, sûrement pas.
Ok. Non, mais t'en parles avec des auteurs, des autrices
Je connais des... J'entends parfois des auteurs dire qu'ils ont écrit un livre en 2-3 mois, que c'est sorti d'eux, que c'était un peu un moment, un été. Moi, c'est pas du tout mon expérience, donc j'ai du mal à me le représenter. C'est sûrement différent pour tout le monde. Mais en tout cas, dans mon cas, c'est forcément lent et forcément long. Il y a le côté, tu peux pas aller plus vite que la musique. Parce qu'il y a ce côté, tu vas écrire une première version, elle va être bof, puis tu vas faire une deuxième version, ça va être un petit peu mieux, puis une troisième version, puis tu continues à corriger, en bâtissant de plus en plus ce que tu as envie de bâtir. Mais en tout cas, dans mon expérience de l'écriture, il n'y a pas cette fulgurance de ça prend 2 mois. D'où le fait que j'avais envie de faire ce podcast avec toi sur le temps long, sur le côté comment on tient la durée. Et je trouve que cet épisode... 4
3
3 oh là là, cet épisode de 3 est vraiment en fait le cœur du sujet finalement sur comment tu tiens la distance. Il y a vraiment, tu es dans le marathon, tu es au kilomètre 20. Petit moment de solitude quoi.
Rappelons que tu as écrit Mon mari sur 3 ans, c'est ça ?
Ouais.
Et mais que tu avais un job salarié à côté, on en reparlera dans un épisode plus tard de la que tu as quitté désormais.
Ouais, c'était un autre travail à l'époque. Mais
c'était un autre travail, mais tu avais quand même un job salarié que tu as quitté désormais, parce que tu as décidé de te lancer à plein temps dans cette activité d'écriture.
En tout cas, j'ai décidé de me laisser quelques mois pour écrire le deuxième, plus précisément, mais oui. On en reparlera dans un futur épisode. Je sens que je vais me faire cuisiner.
Un peu, oui.
Mais en tout cas, à l'époque de mon premier livre... consciemment ou inconsciemment, j'ai fait le temps. Alors oui, c'est un peu bateau de dire il faut prendre le temps on l'a pas, on le prend. gna gna gna. Mais en fait, inconsciemment, oui, c'est un peu ce que j'ai fait. Je me souviens que j'avais... Donc moi, je travaillais dans les podcasts et dans la radio. Et j'avais une proposition de CDI dans une boîte de podcasts, en gros, pour raccourcir. Et en fait, j'ai dit non. Et j'ai fui parce que je sentais que j'aimais tellement mon travail, que c'était un travail tellement prenant, que jamais je continuerais mon roman. Et je l'avais vu parce que j'avais fait notamment un stage dans une autre boîte de podcast où je respirais podcast lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis je rentrais, j'étais exténuée, évidemment. Enfin, évidemment, non. Enfin, en tout cas, moi, oui. Ma manière de vivre mon travail était tellement intense.
On est sur une personne intense. Hein.
On est sur une personne entière intense, passionnée. Et donc, il n'y avait pas le côté, bon, bah, je pars à 17h et puis après, j'écris tranquillement le soir. Je ne sais pas faire ça. Et donc, je l'ai senti et j'ai fait, oulalalala, ça va pas être possible, cette histoire. Et donc, j'ai accepté un travail à mi-temps. En tout cas, un horaire décalé où je travaillais souvent du jeudi au dimanche. Je travaillais aussi une partie de nuit. Et donc, ça me laissait voilà, tout le temps dans ma semaine, des jours, lundi, mardi, mercredi, où je ne travaillais pas. Ou au contraire, je travaillais... par exemple, je commençais à 2h du matin, je finissais peut-être à 10h ou 11h. Après, je faisais une sieste et je pouvais écrire l'après-midi. Mais en tout cas, j'ai choisi un travail qui me permettait d'écrire. Point final. Mmh. Et évidemment, c'est des contraintes et c'était un certain sacrifice parce que pour l'avoir fait pendant longtemps, avoir un réveil qui sonne à 1h du matin ou à minuit et demi, je vous jure que j'ai un immense respect pour les gens qui travaillent de nuit parce que moi, je l'ai fait pendant une période mais pas voilà, autant que d'autres personnes à la radio ou même dans d'autres professions. Et ouais, il faut avoir la petite force de caractère hein, parce que ton réveil, il sonne... t'es dans un état tellement déphasé. Enfin, j'ai connu une fatigue, mais je peux même pas expliquer cette fatigue. En fait, une espèce de fatigue intense qui te creuse en un espèce de trou en toi tellement ton organisme comprend pas pourquoi à 2h du matin, t'es en train de travailler, quoi.
Et t'arrivais malgré tout à écrire pendant tes moments off ?
Oui. Alors, en fait, pas toujours, parce que dans les moments où je faisais des matinales toute la semaine, impossible. Je dormais toute l'après-midi. Mais en fait, je travaillais par mission. Donc une semaine de matinale et souvent après 4 jours rien, puis un peu de matinale, puis après rien pendant une semaine, puis après du jeudi au dimanche. En tout cas, c'était un emploi qui me permettait d'avoir toujours dans mon mois forcément quelques jours de disponible ou alors des matinées. Et donc c'était un sacrifice en termes de vie sociale, on en reparlera aussi, mais avoir un projet long, c'est aussi dire non, je ne sortirai pas ce soir, non, je ne viendrai pas à ton anniversaire, non, je ne partirai pas en vacances avec vous. Enfin, il y a aussi apprendre vraiment à dire non. Il y avait aussi me lever très 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 tôt. Et puis il y avait aussi le fait que je gagnais très très peu ma vie à l'époque. C'est-à-dire que, on ne va pas dévoiler les salaires à France Inter, mais je gagnais ouais, vraiment, vraiment pas bien ma vie du tout, du tout, du tout. Mais aussi parce que j'étais payée par mission au nombre d'heures que je faisais. C'était des petits CDD, donc tu n'es pas payé entre, évidemment. Et donc je faisais des mois à 700 euros, à 800 euros, parfois à 1000 euros. Et après, je faisais des missions à côté pour compléter mes revenus. Mais donc, c'était aussi un...
Rappelons que tu n'avais pas encore sorti du tout de roman.
Ah, bien fait, sûr que non.
Voilà.
Ah non. Voilà. Et c'était un vrai choix. Et j'ai fait HEC. Et donc, j'avais pas mal d'amis qui travaillaient depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui gagnaient déjà très bien leur vie.
Bah oui.
Et donc, il y avait quand même ce moment où on allait boire des cafés. Et j'étais un peu Lulu Berlu, qui avait fait ses choix de travailler de nuit, travailler à mi-temps, pas bien du tout gagner sa vie.
Au moins, il te payait les cafés, quoi.
Voilà, exactement. Ils payaient les cafés, je les embrasse. Mais voilà, tout ça pour dire que évidemment, oui, il y avait une petite dose d'inconfort. Et je pense que quand on a un rêve assez fort et intense, et on en reparlera dans les derniers épisodes sur l'écriture du deuxième, il faut accepter un petit inconfort, quoi, et qu'on peut pas tout avoir. Et en même temps, ce qui est fou, c'est que je l'ai pas non plus vécu comme un sacrifice du tout, hein. Sinon, je l'aurais pas fait. J'étais la plus heureuse du monde. Déjà, j'adorais travailler à France Inter. J'adorais les équipes. J'adorais la mission de service public que j'avais. J'adorais cette radio. Donc, j'y allais pas en pleurant du tout. J'adorais. Mais c'est vrai que c'était un emploi qui était compatible avec le fait d'écrire. Donc, ça, évidemment, ça me rendait très heureuse. Et puis, c'était, je peux pas dire. En fait, je me voyais pas faire autre chose. Je me voyais pas faire différemment. Je me voyais pas. Quand j'avais vu qu'en travail salarié à plein temps, j'avais pas écrit une ligne pendant 4 mois, je me disais, c'est pas du tout possible.
Ouais.
Je vais dépérir. Je vais déprimer. Je peux pas. Et puis après, c'était aussi un projet de couple, pardon.
Ouais, avant de parler de ton couple, c'est hyper intéressant. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que t'as envisagé d'arrêter d'écrire à un moment donné au nom de la sécurité de ton CDI qui, j'imagine, toi, te sécurisait de ouf, quoi.
Non.
Ok, jamais.
Non.
Ok.
En fait, pas tant que mon premier roman serait pas terminé. Moi, mon ligne de mire, c'était finir ce livre.
Ok.
Après, évidemment, tu ne sais pas si tu vas être publié, tu ne sais pas ce que ça va donner. Enfin, j'avais aucune idée de ce qui pouvait se passer après. Mais moi, je voulais le finir parce que je voulais jamais avoir le regret de me dire un jour « Ah, j'aurais bien aimé écrire, mais la vie a fait que. CDI, maintenant j'ai des enfants, c'est compliqué. » J'étais en mode « je veux pas. » Et en fait, je savais aussi que j'avais rien à perdre. C'est-à-dire que c'était mes premiers emplois. Je me dis « Si je veux un CDI plus tard et faire une carrière plus conventionnelle, je la ferai plus tard. J'ai pas d'enfants. Il y a personne qui compte sur moi financièrement. Je peux me le permettre. C'est aussi un luxe que je m'offre. Je m'offre ce luxe-là de prendre ce temps-là et de faire ces choix-là. » Donc non. Mais en fait, c'était trop important pour moi. Mais en fait, quand c'est trop important pour toi, c'est trop important pour moi. C'était trop important.
Ouais, mais il y a... Enfin, tu dis ça, mais il y a des tas de gens qui tirent des traits sur des choses qui sont importantes pour elles au nom de... je sais pas, de projets de vie qui te viennent, tu vois, à un moment donné.
Ouais.
Ou d'une peur, où on a parlé de peur dans les épisodes précédents, ou de la sécurité, etc. quoi.
Après, je pense que j'avais aussi... Je me posais pas beaucoup de questions, j'étais insouciante. Puis j'avais aussi un peu la confiance de... j'ai pas jamais associé la carrière artistique à la précarité non plus.
Okay.
Je me suis pas dit « Oh, je vais écrire des livres, donc je vais être pauvre toute ma vie. » J'avais aussi l'idée de « Tu peux très bien réussir ta vie dans des carrières artistiques. » Et je l'avais vu, donc j'avais commencé en stage à France Inter, dans une émission qui s'appelait Boomerang à l'époque avec Augustin Trapenard, et qui a, à mon sens, une carrière magnifique et je l'admire énormément. Et il y avait un peu ce modèle de « Tu peux travailler dans la culture, avoir un super taf, gagner très bien ta vie. » Je veux dire, culture ne veut pas dire précarité. Oui. Et donc, dans ma tête, il y avait ce côté... et je me souviens que mon copain de l'époque me disait... il disait à ses potes, donc nos potes d'HEC, « Oui, bon, là, Maud, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, c'est elle qui m'offrira notre maison au bord de la mer avec son premier best-seller. » Il y avait aussi un peu, tu vois, cette confiance de c'est un investissement. Enfin, je sais pas, je me posais pas vraiment la question, mais j'étais pas non plus...
C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de projet de couple avant que je coupe.
Ouais, bah en fait, il y avait ça remonte à quelques années maintenant, mais dans mon souvenir, c'était aussi... j'avais le soutien de mon amoureux de l'époque qui payait une partie plus importante du loyer. Donc on vivait ensemble, on était tous les deux locataires, et moi je gagnais peu ma vie, et vraiment peu par rapport à lui qui gagnait très bien sa vie. Et donc il payait une plus grande partie du loyer. Et donc c'était aussi une manière indirecte, j'ai l'impression, de me soutenir mon
bien
projet
sûr.
Et de le rendre possible. Et ça, je trouve ça très beau.
Bah écoute, pareil, hein. même vie, hein. Globalement, moi de mon côté, je l'ai déjà raconté à droite à gauche et je le redis, mon ex-femme a vraiment participé au succès de Mademoiselle de façon très prégnante, dans le sens où je ne me suis pas payé pendant 7 ans. Alors c'était une volonté de ma part, hein. Clairement, je crois qu'au bout de 2 ans, il y avait vraiment moyen que je me paye. J'avais plus le chômage, mais en vrai, il y avait moyen que je me paye. Mais ça voulait dire aussi embaucher quelqu'un de moins, par exemple. Et ça n'a jamais été mon envie et son envie. C'était partagé, quoi. Tu vois, vraiment, on se réunissait tous les ans en se disant « Ok, où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu es toujours ok ou pas ?» Et globalement, ça, je crois que j'ai déjà raconté. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais pareil, dans l'idée d'organiser sa vie pour faire en sorte que ton projet marche, je me suis rendu compte assez rapidement que de créer Mademoiselle, à l'époque je l'avais créé à Lille et il était basé à Lille parce que c'était là que je vivais, d'avoir un média d'envergure nationale ailleurs qu'à Paris. En France c'est très compliqué parce que en gros les Parisiens considèrent que t'es un média local, quoi. Et moi j'avais pas du tout de vocation à faire de Mademoiselle un média local, au contraire c'était même dans ma tête international. On avait des lectrices québécoises qui lisaient, on avait des Suisses francophones, etc. Et d'Afrique du Nord, etc. Enfin, il y avait vraiment plein de gens. Et je m'étais dit, tant que je serai pas à Paris, en fait, ça sera compliqué. Et j'avais, tu vois, tu parlais de sacrifice. L'un des trucs que je voulais pas sacrifier à l'époque, c'était ma vie de père, en fait, parce que mes filles étaient encore toutes petites. Et je me souviens très bien que l'un des trucs qui m'a vraiment déchiré le cœur une fois qu'on a décidé et que j'ai décidé, que j'ai proposé à ma femme et qu'elle a dit, let's go, faut que tu y ailles, parce qu'en fait, c'est là-bas qu'il faut que tu ailles. Les premières semaines ont été très très douloureuses parce que je me souviens très bien que je focalisais sur l'heure du coucher. Je ne leur lisais plus d'histoire le soir et pour moi c'était trop trop dur, vraiment. Et Et en fait, peu importe, parce que je savais que j'avais ce truc qui me drivait et j'ai sacrifié, en fait, quelque part, ma vie de père par rapport au projet Mademoiselle. Je sais pertinemment pourquoi je l'ai fait. J'ai déjà raconté aussi, donc je suis désolé dans d'autres podcasts si vous l'avez déjà entendu, mais je trouve que c'est un truc qui marche très bien. Je me suis dit, ok, et dans 10 ans, le moi de dans 10 ans, qu'est-ce qu'il va dire? Donc vraiment, je crois, 2011, je réfléchissais vraiment là très fort à me dire, ok, maintenant, faut sans doute le faire parce que la boîte, elle vivote à Lille. Il faut que ça explose. En fait, j'ai envie de donner les chances à cette boîte d'exploser. Et dans 10 ans, où est-ce que tu en seras? En fait, dans 10 ans, mes filles, elles auront 10, 15 ans, elles auront 15, 16 ans. À tous les coups, elles seront adolescentes. Elles vont me chier dans les bottes. Est-ce que je serais capable de pas les envoyer bouler en leur disant, eh ben, je me suis sacrifié pour toi. Hein, et en fait, voilà, aujourd'hui, comment tu me récompenses? Non, pas du tout. J'avais pas envie d'être ce père-là. Et je me suis dit, bah, je préfère me focaliser sur ce projet-là qui est vraiment mon projet de cœur, etc. Et en fait, on verra après ce qui se passe dans ma relation avec mes filles. Et surtout, j'ai pas envie d'avoir de regrets par rapport à ça. Et en fait, bah, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ma deuxième fille parce que je crois qu'elle a du mal à encaisser encore le fait que je sois parti. Mais je sais que ça va changer et je sais qu'elle va comprendre, tu vois, avec le temps. Là où ma fille aînée, elle a pigé, tu vois, ce que ça représentait pour moi à l'époque. Mais ouais, c'est bien sûr, plein de sacrifices. Tu peux pas ne pas faire de sacrifices, t'es obligé.
Et j'aime bien ce que tu dis de vision à long terme. Moi, j'avais cette... Tu sais, c'est des petites idées bêtes aussi que tu te mets dans la tête de « je ne ferai pas d'enfant tant que j'aurai pas publié mon premier roman
okay. ».
C'était très clair dans ma tête parce que je voulais pas dire... Enfin, en vouloir... Je sais, je me disais « mais je pourrais jamais aimer ce bébé » parce que je me dirais « mais tu m'empêches d'écrire ». Ah bah j'aurais pu et peut-être un jour... Peut-être que j'aurais pu. En fait, je ne saurais jamais si j'aurais pu. Est-ce que j'ai fait mes bons accords, mais ma bonne concordance des temps, oui. Parce que tu es née. Et donc, je vais t'en vouloir. Je vais t'en vouloir parce que tu as m'empêché de savoir si au fond de moi, j'aurais pu finir ce livre qui est si important pour moi. Et je me dis, mais c'est impossible. Et pour moi, être mère, c'est quelque chose de très, très, très important. Et donc, c'était une manière de mettre dans la balance quelque chose de super puissant.
Ouais.
Et donc, à côté, un CDI et des peurs et d'autres trucs, c'était un peu bon. C'était pas grand-chose par rapport à ça.
C'est toi qui m'as parlé de Tiny Beautiful Things, c'est ça?
Tout à fait.
Qui est donc que moi j'ai vu en série sur Disney Plus et qui raconte un peu ça hein, en filigrane, l'histoire de cette mère qui n'a jamais publié son livre parce qu'elle est devenue maman. Et il y a un peu de ça.
Ouais, je me souviens plus bien de cette histoire. En fait, c'est un recueil de lettres. Auquel l'écrivaine Cheryl Strayed, que j'adore, répond. C'est un peu mon idole. Elle avait à l'époque un podcast aux États-Unis qui s'appelle Dear Sugars, qui est un podcast de courrier du cœur, qui était aussi une colonne dans le New York Times. Et donc, elle a regroupé dans un livre Tiny Beautiful Things des lettres très marquantes auxquelles elle répond. Et donc, j'ai construit ma connaissance émotionnelle et mon éthique et ma vision du monde un peu sur ce qu'elle disait. Enfin,
okay.
C'est vraiment, elle a été très constitutive de ma vie. Et donc, je me souviens plus bien exactement de cette lettre, mais effectivement, ça ne m'étonne pas du tout. Et donc, c'est vraiment à l'américaine le côté, il faut se lancer, il faut écouter ses rêves, vivre sans regret. Ce qui peut évidemment être agaçant parce que il faut quand même bien checker sa bonne dose de privilèges pour pouvoir se permettre de faire ce genre de choses. Et moi, j'ai un peu checké mes privilèges. Je me suis dit, putain, j'ai tellement de chance de pouvoir me permettre de moins bien gagner ma vie. Après, évidemment, bah, ça veut dire que je pars pas en vacances. Ça veut dire plein de choses qui vont avec. Hein. Mais je sais vraiment ce que j'ai envie de faire et je peux me le permettre. Mais vas-y.
L'autre sujet dont on voulait parler, c'est comment tu as structuré ce projet dans le temps. Comment tu t'es lancé? Pas lancé, justement. Comment tu...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Non, on est au milieu du désert.
Oui, c'est ça.
Et ben, j'ai découpé un gros gâteau en plein de petites parts et donc ça fait moins peur pour tout manger. Évidemment, il y a quelque chose dans le projet long qui est, enfin, qui donne le vertige, c'est « Oh là là, je vais écrire un livre de 300 pages, c'est très long, etc. » Pareil dans une boîte, j'imagine, oh, par où je commence, il y a tellement de choses à faire. Et en fait, je me fixais des tout petits objectifs. À la fin du mois, j'aimerais bien finir une version. Donc moi, il y a 7 chapitres dans mon livre parce qu'il est écrit sur une semaine. Enfin, chaque chapitre est un jour de la semaine, donc c'est facile. Donc je me disais, ah bon, bah à la fin de cette semaine, j'aimerais bien avoir fini le lundi ou j'aimerais bien finir le mardi. Donc je me fixais des petits objectifs et en découpant, enfin, on avance et c'était vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'itérations. C'est-à-dire, on fait, puis on recommence, puis on recommence, puis on recommence.
T'as fait combien de versions ?
Ah, mais je peux même pas te dire, mais je pense centaines au moins.
Ah ouais ?
Ouais. Après, parfois, il y avait des petites choses qui bougeaient d'une version à l'autre et parfois des plus grosses choses, mais c'était beaucoup de refaire et de refaire et de re-refaire. Et après, il y a quelque chose aussi, j'y repensais sur tout ce qu'on s'est dit sur la notion de sacrifice, de dégager du temps, d'aménager sa vie pour ça. J'aime pas trop le mot sacrifice parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu triste, alors que j'imagine ou que ça doit être quelque chose de très joyeux. Et je veux pas qu'on pense, enfin en fait je pense, j'espère que j'ai pas été maladroite dans mes mots, dans le sens où je veux que ça soit bien clair que je l'ai fait avec le sourire et que j'étais très heureuse de le faire et que c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Je l'ai pas fait en disant ah bah voilà, il faut bien sacrifier ça pour voilà, pour écrire un livre. Je le faisais parce que ça me rendait heureuse et que c'était la seule chose que j'avais envie de faire et que, enfin, que ça me rendait très heureuse. Et donc il y a ce côté là, on est un peu au milieu du désert et c'est un projet long. Je pense que ce qui est très important, c'est que ça nous rende heureux. Sinon, c'est peut-être pas le bon projet. Si mon rêve, c'est d'ouvrir un café et qu'en fait, 6 mois plus tard, oh là là, c'est dur, ça traverse, c'est du désert, j'ai pas envie, ça me tombe des bras, ça me rend triste, c'est difficile, peut-être que c'est pas ça. Et l'écriture, alors oui, il y a eu des moments durs, évidemment, on en reparlera peut-être, mais globalement, c'était quand même, j'adore ça. Refaire une 50e version du chapitre 3, mais c'est génial. Parce que je me dis, ah là là, mais alors là, elle fait ça, mais peut-être que si je changeais ça, et en fait ce chapitre, en fait c'est trop bien, mais alors attends, je vais modifier ça. Enfin, globalement, j'adore. Et donc c'est vrai que la vision de l'écriture comme quelque chose d'un processus très douloureux, moi je ne m'y reconnais pas du tout. Enfin, moi j'adore écrire. Et je trouve que c'est écrire un livre, ça a été la chose la plus difficile que j'ai faite, mais aussi la plus réjouissante. C'est comme un casse-tête. C'est-à-dire que c'est là, genre, oh là là, mais il se passe rien, mais ça marche pas, alors attends, je vais peut-être faire ça, ce truc, ça arrive à tel chapitre, je vais essayer de le remonter pour peut-être. Ça.
Et tu veux dire que tu peux mettre à côté un truc difficile et laborieux et qui demande du travail et en même temps de la joie.
Ah ben c'est même égal. Okay. C'est-à-dire que je prends du plaisir à ce casse-tête mental. J'adore. Parce que c'est tellement compliqué et difficile et tellement réjouissant quand on y arrive. Et il y a des moments où tu dis exactement ce que tu as envie de dire. Enfin, moi, c'est mes plus grandes joies. C'est mon plus grand bonheur d'écrire. Vraiment, 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 vraiment. Et donc, dans ce temps long, on s'y met et on structure. Et normalement, chaque étape est assez cool. Sinon, non, mais j'aurais fait autre chose. Enfin, j'aurais pas... Enfin, en fait, la joie fait tenir. L'enthousiasme et l'intérêt intellectuel que j'y trouvais.
Ah, je suis d'accord. Moi, de mon côté, je trouve qu'il y a un truc très intéressant que j'ai mis un peu de temps à comprendre parce que c'est d'autant plus difficile quand tu as été pendant longtemps salarié, c'est que tu es maître à bord. Et surtout dans un projet, ça, c'est pas vraiment le sujet, mais où Mademoiselle était autofinancée. J'avais pas d'investisseur. J'étais avec mon associé, Denis, le seul maître à bord. Et en plus, j'étais majoritaire, donc vraiment, c'était moi qui décidais à la fin, quoi. Et en fait, Denis, justement, qui avait donc 15 ans de plus que moi, et m'a beaucoup challengé sur c'est quoi, où tu trouves ton plaisir. Et je crois que pendant plusieurs années, en fait, j'étais vraiment dans le sacrifice et c'était un sacerdoce et c'était un chemin de croix à plein d'aspects parce que c'était compliqué pour moi de manager cette boîte et de la faire grandir, alors qu'en fait à la base, je finissais par devenir de plus en plus manager et chef d'entreprise, alors qu'en fait moi à la base j'avais créé ce projet pour écrire des articles et faire des vidéos parce que je trouvais ça marrant, quoi, tu vois. Et je sais, tu vois, que l'un des trucs que j'ai pas exploré, par exemple, avant de la revendre, c'était de mettre quelqu'un, un DG ou une DG à ma place pour faire justement tous les trucs que j'avais plus envie de faire. Mais ça fait partie des choses que j'ai structuré de plus en plus pendant notamment les 5-6 dernières années, où je réfléchissais à c'est quoi les trucs que tu as plus envie de faire et comment tu vas faire pour les déléguer, pour les donner à quelqu'un, parce qu'en fait tu l'as déjà fait et tu n'as plus envie de les faire. Et ça fait partie des choses où, comme tu disais, c'est hyper important de prendre un peu de recul, de se dire ok, il est où mon plaisir, et de te remettre au centre du projet. Alors que c'est un peu contre-intuitif, parce que autant toi il y a un vrai côté où tu es la source entre guillemets de ton écriture et de ton roman, etc. En tout cas, on n'a pas encore passé à l'étape d'après sur quand il est chez l'éditeur, quoi. Mais je crois que moi j'ai eu du mal à comprendre, comme je leur en parlais dans le deuxième épisode, à quel point c'est hyper important d'alimenter la source du projet, et qu'en fait la source c'était moi. Et d'ailleurs ma psy m'avait donné un exemple que j'avais trouvé assez génial. Elle m'avait dit, mais femme, en fait ton problème c'est que ton puits il est vide, et que pour plein de raisons, il y a des tas de gens qui sont venus chercher de l'eau dedans, etc. Il y a d'autres gens qui ont voulu couper les canalisations, etc. Donc ton puits il est à sec là, maintenant il faut que tu le remplisses. Et je me souviens très bien que j'avais lancé Histoire de Daron à l'époque vraiment pour retrouver du plaisir, qui avait strictement rien à voir avec le projet, mais juste de retrouver du plaisir dans mon quotidien. C'était hyper important pour moi, et je crois que pendant très longtemps, si aujourd'hui tu vois typiquement dans la boîte que j'ai recréée, c'est vraiment un truc auquel je fais très attention, c'est-à-dire mon envie, mon kiff et globalement mon enthousiasme, avant de penser à ok, il faut les responsabilités, tu vois. J'avais 30 salariés à payer, il fallait faire rentrer du chiffre d'affaires. C'était beaucoup de douleur, si tu veux, notamment à une période. Et ça, je crois que c'est un truc que j'ai peut-être mis un peu de côté. Et je crois que si c'était à refaire, tu vois, si j'avais lancé Mademoiselle, si je devais relancer une grosse boîte, on va dire, avec 30 personnes, c'est vraiment un truc où je me mettrais au centre, en fait, de façon un peu... vous pourriez voir ça de façon égoïste, en tout cas je crois que moi je le voyais de façon égoïste avant. C'était vraiment ok, un patron qui se met au centre, c'est vraiment un patron qui pense qu'à lui, alors que pas du tout, en fait. Pour moi c'est un patron qui oublie pas et qui a en tête que la personne la plus importante dans ce projet c'est lui, parce qu'en fait s'il s'écroule, tout le reste s'écroule, quoi.
Et que le vrai...
Ça a l'air de te laisser songeuse.
Non, je réfléchis pendant que tu parles, parce que ça me fait penser, oui, le vrai moteur, la vraie essence, c'est la joie. C'est-à-dire que suivre son rêve, avoir une idée, la mettre en œuvre, se lancer, sauter dans le vide, etc., c'est censé quand même nous rendre plus heureux. C'est-à-dire que demain, tu veux devenir... Ton rêve d'enfant, c'est d'être graphiste, alors que t'es comptable. Tu dis, ok, j'ai ce rêve, je vais me lancer, je me suis lancé, j'ai écrit les premières pages de mon projet, je le tiens sur la durée. L'indice, la boussole, c'est que normalement, au bout de 6 mois... tu te dis quand même tous les matins que t'es quand même plus content de te lever qu'avant. Et c'est quand même ça qui fait qu'on finit la course. Et donc de pas perdre la joie et ouais, l'enthousiasme. Et ça me fait... Moi, je suis très, très fan de... Tu la connais peut-être, de Pauline Legnot,
oui,
qui est une entrepreneuse qui a monté la marque Gemio et que moi, j'aime beaucoup pour les podcasts, pour ses podcasts. Ça s'appelle le podcast de Pauline Legnot, que j'écoute assez religieusement, qui parle d'entrepreneuriat, mais pas que. Et elle dit souvent ça, que quand tu crées ta boîte, après, en fait, tu fais plein d'autres choses. Tu as plein d'autres missions, mais qu'il faut vraiment te poser la question de qu'est-ce que tu as envie de faire. En fait, il n'y a pas de passage obligé, et c'est la même chose quand tu écris un livre. C'est-à-dire que tu peux te dire, non, mais en fait, moi, je veux rester 3 salariés, pas plus. Ou ok, moi, j'ai envie qu'on soit 100, et de m'effacer. Ou alors, non, moi, j'ai envie qu'on reste toujours pas plus de 10, et non, je vais refuser une surcroissance, parce qu'en fait, je veux qu'on... Il n'y a pas... Le succès, elle dit, c'est pas, ta boîte n'a pas plus réussi si vous êtes 200 que 100. C'est plus, quelle est toi ta vision du succès? Elle dit, qu'est-ce que toi, tu veux? Quelle est ta vision, en fait? Tu veux une petite boîte, une grosse boîte? Tu veux vendre, tu veux pas vendre? Qu'est-ce que tu veux?
Ouais, mais ça,
et c'est... j'aimais bien cette idée de pas se dire, bah, c'est comme ça.
Ouais, et en même temps, dans un domaine, enfin, dans une société capitaliste, pour plein d'entrepreneurs, c'est vachement plus intéressant d'avoir une boîte à 100 salariés que d'avoir une boîte à 3 si tu veux venir te coller de, ok, c'est quoi le succès, quoi, tu vois? Donc,
bah, elle, elle déconstruit vachement ça, ouais. Parce qu'elle dit aussi qu'une boîte à 3 salariés, si tu te payes très bien, tu te prends tes mercredis, t'as pas plein de personnes à manager, enfin, c'est aussi une vie de liberté que t'as peut-être pas dans une boîte à 200. Enfin, c'est pas... Le succès, ça peut être aussi de très bien gagner sa vie en bossant 2 jours par semaine. Hein. Ce que je trouve pas mal aussi.
Moi, je suis très d'accord avec cette idée, mais je crois que je l'étais beaucoup moins à 30 ans. Et vraiment beaucoup moins. Parce que pour moi, en fait, le succès, ça allait aussi avec... tu vois, j'avais doublé ma surface de bureau, j'avais 200 mètres carrés dans Paris. Pour moi, il y avait un truc... J'en avais un peu rien... Enfin, j'en faisais pas un truc de statut, mais c'était juste pour moi, ça, en fait, ça servait le projet. Et le projet, plus il était gros, plus c'était important qu'il soit gros, parce qu'il était tellement bien pour la société d'une manière générale que le sacrifice que je devais faire pour lui, tu vois, c'était... de lui offrir toutes les chances de pouvoir être le plus gros possible et de pouvoir être le plus influent possible et de pouvoir faire le plus de bien possible, quoi, quelque part.
Mais ça veut dire que...
Là, il y a beaucoup d'égo perso, hein, derrière.
Bah, c'est surtout, moi, le mot sacrifice qui, plus ça va, plus il me...
Il me trigger
et je me dis peut-être, si vous nous écoutez et que vous voulez monter un projet, bâtir quelque chose qui est important pour vous, attentionnez à prendre l'habit du sacrificiel.
Bien
quoi.
Sûr. J'ai une coach qui me disait ça n'est pas écologique. C'est-à-dire que ça n'est pas bon pour ton environnement, mais avant tout pour toi, quoi, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire, ne faut pas faire ça, quoi. Et bien sûr, c'est évident.
Le côté, je vais quitter mon taf et ça va être un sacrifice et je vais m'auto-flageller et pas me payer parce que je vais écrire un livre et ça va être dur et je vais plus jamais voir mes amis et ça va être horrible et tout ça. Oh là.
Après, sur l'argent, je mets un bémol, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on projette sur l'argent. Mais bon,
okay.
c'est mon petit
bémol
truc.
Accepté. mais ouais, ça me... Quand on est au milieu de la... du
désert,
chemin, là, du désert, il faut quand même qu'on soit un petit peu en train de danser et qu'on soit content. Après, il faut aussi parler des moments plus durs. Ouais. Mais voilà.
On peut en parler.
On peut en parler. Peut-être que là, peut-être dans l'épisode suivant... surmonter les...
On avait géré son regard interne, que je trouve trop intéressant. Comment tu fais pour te sentir patron, te sentir autrice?
Toi d'abord.
Alors moi, ça a été très très dur. Et je l'ai décrypté il y a quelques années, un peu tard, par rapport à mon parcours de patron. En fait, pendant très longtemps, j'ai eu un mal fou à me considérer comme le patron de Mademoiselle. Mais pour une bonne raison, c'est que mon père, que j'adore, qui peut-être va sans doute écouter cet épisode, mon père était radicalement de gauche, enfin, il est toujours vivant. Mon père est radicalement de gauche, et mon grand-père était communiste. J'ai été éduqué dans, en gros, les patrons, ils branlent rien et ils sont super bien payés, ils foutent pas grand chose, quoi, tu vois. Donc, c'était dur pour moi de venir m'associer à ce truc-là. Mes parents, je suis ce qu'on appelle un transfuge de classe, n'est-ce pas? Mes parents n'ont pas fait d'études, etc. Et je crois qu'il y avait un peu une. C'était un peu compliqué, tu vois, pour moi de prendre totalement cette casquette et de mettre la veste de patron et de l'assumer totalement vis-à-vis du reste du monde, en tout cas. Là où aujourd'hui, j'ai plus aucun problème, tu vois, à me dire, ok, en fait, je suis le patron, je suis le propre boss de mon projet. Et sur les dernières années chez Mademoiselle, ça allait beaucoup mieux. Mais les premières années, ça a été vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et ça a amené à plein d'imbroglios managériaux, parce que de ce fait-là, je crois qu'il y avait aussi une histoire de trouver sa place vis-à-vis de mes premiers salariés, etc. à l'époque, où... Aujourd'hui, je sais pertinemment qu'il y a des trucs que je laissais passer, mais parce que j'avais aussi peur du conflit, donc ça va aussi avec. Tout ça était mélangé, et finalement, j'ai appris avec le temps à trouver ma place, en fait, et à m'imposer, mais avant tout dans ma tête. C'est juste de me dire, ok, en fait, c'est moi le patron, et si je suis pas le patron, il y a personne d'autre qui sera le patron à ma place, en fait, parce que tu vas pas laisser tes salariés être le patron, c'est pas l'objectif. Et toi, en tant qu'autrice?
En fait, je pense que c'est un peu différent parce que t'as pas la fonction avant de sortir le livre. Dans ma tête, la question se posait pas trop parce que t'es tout seul. Donc j'avais personne à qui dire « Hey, je suis autrice ». J'étais juste en train d'essayer d'écrire mon livre et donc je l'écrivais. Je sais pas comment dire.
Ouais, je vois.
Donc
C'est Navo qui disait un truc très intéressant. Il disait en fait « Si t'attends des autres qui disent à ta place que t'es autrice ou que t'es auteur ou peu importe que t'es ce que tu veux, sauteur en élastique, etc. En fait, ils le feront pas. C'est à toi de le décider et c'est à toi de décider que tu l'es en fait. Et je comprends en fait, tu vois, ce truc de te dire, bah en fait, moi, tant que j'ai pas publié un truc, je le suis pas.
Enfin, moi, je me posais même pas ces questions-là. Moi, j'étais vraiment à l'usine de la manufacture du livre. Moi, j'étais en train d'écrire mon livre, en fait. Hein.
Okay.
Donc, j'étais genre, oh là là, comment je vais structurer la fin ? Oh là là, tel perso. J'étais dans les mains dans le cambouis. Donc, la question dont c'était perçu, dont je me le disais, enfin, je me suis posé pas du tout ces questions.
C'est plutôt par rapport à toi, ce regard interne que t'avais.
Mais en fait, le regard interne d'auteur, et j'aime bien que ça soit ce mot-là, tu vois, dans le côté l'auteur du crime, l'auteur du livre, l'autrice, t'es forcément parce qu'il n'y a personne d'autre. Mmh. Toi, peut-être aussi, t'avais un associé, c'était directement collectif comme projet. Donc la question s'est posée de prendre ta place de patron. Alors que moi, bah, j'étais vraiment toute seule. Hein. Tu vois, personne n'allait prendre ma place ou personne. Si je m'y mettais pas et que j'ouvrais pas mon ordinateur, oh, bah, il se passait rien. J'avais pas besoin de dire bon, bah, c'est comme ça, hein. On va faire ça au chapitre 3. Parce que personne. Tu vois ce que je veux dire ? Ça s'est posé plus quand j'ai intégré une maison d'édition. Et que mon projet personnel est devenu un projet d'équipe. Ouais. Et donc, on en reparlera dans l'épisode suivant. Où là, évidemment, ça change totalement. Mais pendant toutes les années d'écriture, bah, j'étais. Mon propre chef. Et en fait, autant te dire que j'adorais ça. Parce que précisément, en fait, c'était génial d'avoir le contrôle parce que je ne l'avais pas forcément dans mon travail. Et justement, ça mettait les choses bien à sa place. Et j'étais jamais frustrée au travail parce que j'avais un lieu qui était mon lieu à moi. Je fais comme je veux. Et je suis seule maîtresse à bord. Mmh. Et donc ça, c'est mon livre. Et en revanche, quand je bossais par exemple sur des émissions à France Inter, je bossais pour des producteurs qui me disaient quoi faire, et c'était eux les maîtres à bord, et ils voulaient comme ça. Alors oui, si on m'avait demandé est-ce que j'aurais fait exactement comme ça, non. Enfin, c'est pas mon émission, quoi. Et c'était pas mon rôle. Et moi, mon rôle, c'était de faire telle chose, telle chose, telle chose, de le faire au mieux, je le faisais, et ça se passait très bien, et j'étais appréciée de mes équipes. Mais c'était pas... tu vois, j'ai jamais mis mon âme dans mon taf. Parce que c'était toujours en mode, mais France Inter va très bien sans moi. Je les salue, mais je veux dire, France Inter ne s'est pas écroulée quand je suis partie. Mmh. Et évidemment que non. Et c'était pas mon émission. C'était pas mon projet. C'était un projet que je servais en tant que salarié. Et donc, j'y mettais mon cerveau, mes petits bras et mon temps. Et j'étais très contente de le faire. Et donc, je pense qu'avoir ce lieu qui était à moi m'a permis aussi d'avoir toujours un tout petit peu de distance avec mon travail. Tu sais, c'est côté un peu cette phrase que j'utilisais souvent, c'est genre, c'est pas ma boîte, quoi.
Ouais.
Et c'est très bien. Et donc, je me mets au service d'une vision, mais qui n'est pas la mienne. C'est pas moi le chef ici. Mmh. En revanche, et c'est pour ça que j'adorais le roman, là, c'est moi le chef. Et donc là, je fais exactement ce que je veux. Si je veux tuer mon personnage page 2, je tue mon personnage page 2. Et à la fin, je me trompe pas sur les crédits. Dans le sens où, à la fin, ce livre, c'est le mien. Il y a mon nom sous la couverture, et ça, c'est pas du tout négociable. C'est mon bébé, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi la chef. Et c'est, tu vois, mon projet.
Et ça, t'as jamais eu aucun souci avec ça ?
Ah non, pas du tout.
Okay, okay.
Mais parce que aussi, je nourrissais cette petite frustration ailleurs, où je bossais sur le projet des autres. Et je me suis dit, à la fin, j'y donne des heures et des heures et des heures et des heures. C'est pas mon projet, ça sera pas mon nom sur la couverture de l'émission, tu vois. C'est pas ma boîte, c'est pas moi. Mais donc, il y avait ces deux lieux. Et plus le temps passe, plus je sens que j'ai besoin d'avoir ce lieu-là pour bosser. Et on en reparlera après. J'ai bossé ensuite pour la radio Énergie où j'ai créé des podcasts, où j'étais rédactrice en chef. Et donc, je travaillais sur plein de podcasts. Et avoir mon livre à côté m'aidait, je pense, à être une meilleure red chef parce que j'avais mon lieu qui était à moi. Et donc, après, je voulais créer un podcast sur, par exemple, l'influence. Je me disais, bon, bah, qui va être la bonne journaliste pour l'incarner? Qui va être les bonnes équipes? Tu vois, j'avais pas besoin d'y mettre mon nom, qu'on parle de moi, j'avais pas besoin de l'incarner, j'avais pas besoin d'être au centre du truc. J'étais hyper heureuse dans l'ombre parce que c'était pas mon projet, c'était pas mon moment. J'étais red chef et je trouvais les bonnes personnes. En revanche, j'avais besoin d'avoir un lieu où là, par contre, je mettais mes tripes, je mettais mon âme. Mais quand je mets mes tripes et je mets mon âme, je veux que ça soit mon projet, que ça me revienne. Mmh. Je veux pas que ça soit
je comprends.
Quelque chose qui m'appartient pas.
On avait noté aussi comment tu gères les up and down. Parce que dans le désert,
ah ouais,
y en a. Hein.
Y a des moments un peu t'attends le verre d'eau, quoi. y a l'idée qui te permet de tenir. Il y a pour ma part les petits éclairs. Par exemple, dans mon texte, il y avait plein de moments où j'étais en mode « Oh là là, il n'y a rien qui va, c'est nul. » Mais quand j'étais vraiment honnête, j'étais en mode « Ah, il y a quand même ce petit chapitre que j'aime bien. » Ça pouvait être une phrase, un passage, un petit truc, ça, j'appelais ça mes petites pépites. Il y en avait 2-3, tu vois, sur un truc qui fait 200 pages, j'étais un peu genre « Oh !» Mais au moins, ça existait, je m'y accrochais dur comme fer en disant « Non, il y a quand même 2-3 trucs où je sais que pour ça, ça vaut le coup. » Et donc, je m'accrochais un peu aux branches. Et après, je continuais et puis je travaillais. Et puis, je savais, on en revient à, au début de notre discussion, je sentais en même temps que la validation et que la sortie du désert, il n'y aura que moi qui pourrais sortir du désert. Alors oui, je peux demander à des gens de me relire, de m'aider, de me donner des conseils et de me dire que c'est bien. Enfin, en fait, il n'y a que ta petite flamme intérieure qui veut dire « Mais si, vas-y, il faut que ça vienne de toi. » Et toi, c'était... Tu sors comment du désert, du milieu, du ventre mou ?
En fait, c'est très marrant parce qu'un jour, j'ai trouvé un petit cartoon qui est une sorte de petit mème que j'ai jamais retrouvé en fait. Ça me saoule parce que c'est vraiment la dernière fois que je l'ai trouvé. J'aurais dû l'enregistrer, je ne l'ai pas fait. Qui était, tu vois, un petit lapin, une sorte de petit personnage en 9 cases. Et en fait, c'était fuck, yeah. Et c'était que ça, en fait. C'était chaque case, il y avait un moment où il disait fuck, la case d'après il disait fuck, la case d'après il disait yeah. Et c'était, en fait, c'est la vie d'entrepreneur. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment ça où t'as pas le temps, en fait, de profiter des victoires. Et ça a été un vrai truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé les dernières années, parce que justement, avec mon histoire de puits, etc., c'était « Ok, prends un peu de recul et fais en sorte de célébrer et de profiter des victoires et de kiffer le moment, parce que ça ne dépend que de toi. Il n'y a que toi qui décides à un moment donné de te dire « Putain, là, c'est cool quand même !» Prendre le temps de regarder en arrière et de te dire « Hmm, pas mal, good job !» et tout, de te faire un auto-high-five et tout, s'il faut, de le faire avec tes équipes, bien sûr, etc. Mais surtout, de toi à toi. Bon, en tout cas, c'était plutôt ça. Avec les équipes, j'avais moins de problèmes, en tout cas les dernières années. Mais avant ça, j'étais incapable de célébrer quoi que ce soit. Pour moi, c'était toujours « Ok, c'est quoi le truc d'après ?» C'était abominable, et c'était abominable pour mes équipes, c'était abominable pour moi, c'était abominable pour tout l'écosystème. Horrible. Et en fait, les phoques, enfin, tu vois, les downs, bah, juste tu les prends dans la gueule et tu les gères. Et en fait, tu passes à la suite parce que t'as pas le temps de t'apitoyer dessus et t'as pas le temps de prendre le recul. Tu le prendras un peu plus tard. Tu le prendras quand ce sera plus le temps. Quand moi, je faisais tous les 6 mois à peu près un plan de ok, c'est quoi la suite, c'est quoi les trucs sur lesquels j'ai envie de travailler, j'ai envie d'aller, etc. Ou le projet. Et c'était à ce moment-là, tu vois, où tu prenais les trucs un peu plus durs et tu te disais ok, c'est quoi, qu'est-ce que ça a créé et tout. Mais sinon, jamais le temps, quoi. T'as pas le temps. Chez Mademoiselle, c'était tous les jours, il y avait des tas et des tas de merde à gérer, et il y avait de temps en temps une victoire, et la victoire, fallait la prendre, il fallait la chérir, quoi. Donc ouais, c'était... Et je sais que c'est la vie de plein d'entrepreneurs, et je crois qu'en plus, quand t'as été élevé dans un truc où no pain, no gain, quoi, tu vois, c'est-à-dire ouais. Que vraiment, le travail, il faut que ce soit de la torture. Je vous rappelle que travail, ça vient de tripalium, du latin, qui est un instrument de torture, tout simplement. Il faut vraiment faire attention à ça, quoi. C'est un truc dans lequel je suis tombé, mais alors je me suis plongé les deux pieds en avant. C'était génial, pas du tout. Donc ouais, vraiment beaucoup de recul, et je me rends compte avec le recul qu'aujourd'hui, je suis plus du tout là-dedans et que j'ai même créé cette structure et cette boîte avant tout pour ma pomme, et de me dire, ok, il est où mon kiff, et il est où mon bonheur, et il est où mon truc. Et en fait, j'ai beaucoup plus de up que de down. Et c'est exactement l'objectif recherché, quoi, tu vois.
Mais j'aime bien l'image, je crois que c'est toi qui as parlé de vagues. Quand tu crées, c'est un peu la même chose, t'as des vagues de up et des vagues de down. Et maintenant, j'essaie d'avoir un peu plus de recul, un peu comme quand tu es en train de te baigner, tu dis, oh là, je vais me prendre une grande vague, tu vas sous l'eau, tu te prends la grande vague. Ça n'a rien de nager à contre-courant, tu te prends la vague. T'attends qu'elle soit passée, puis tu remets la tête hors de l'eau et un peu accepter que tu vas te prendre la vague et genre, ok, elle va passer. Et j'ai tellement ri quand j'ai regardé le documentaire, tu sais, sur Aurel San, fait par son frère Clément Cotentin. Et je crois que c'est dans le deuxième épisode, enfin le deuxième... Deuxième saison.
Deuxième volet.
Voilà, deuxième volet qui est sorti où on voit Orelsan qui est là genre ouais non mais vraiment stylé là, franchement je le sens bien, là vraiment j'ai des bons sons, là vraiment je... tu vois vraiment qu'il est en up, il dit franchement stylé et tout. Et vraiment il a ce up parce qu'il voit ses idées, que ça marche, que tu vois il a touché à une... ses idées, tu vois ses petites pépites. Et tu vois le lendemain il est là genre oh là là mais en fait c'est nul. Et là tu le vois vraiment mais ça, la tête défaite de genre ah mais en fait pas du tout, mais alors pas du tout. Et j'ai regardé ce documentaire avec mon copain qui a eu un fou rire, il était là ah c'est ta tête quand t'es là ah ouais non là vraiment je le sens bien, il fait oh là là. Et le lendemain ah mais alors pas du tout, alors là c'est nul. Et donc j'essaie de voir que c'est normal qu'il va y avoir des phases où je vais trouver ça bien, des phases où je vais trouver ça nul et que je vais avoir envie de tout supprimer. Et en général ce que je fais c'est que j'écris et quand ça, je commence à être un peu trop en mode mais c'est nul, mais je suis en mode oh, on va fermer l'ordinateur, oui. Et je ferme l'ordinateur, je dis ça, alors là on ferme la porte à ça et je fais autre chose. Et je sais qu'il y a des petites vagues de down, et là j'en ai eu il y a quelques temps, enfin il y a voilà ces derniers temps pour mon deuxième, et je fais ok, il y a la petite vague de en fait c'est nul, l'idée est nulle, ça marchera pas, dadada. Je dis ok, on se prend la petite vague et puis on attend un petit up pour y repartir quoi.
Je vous invite vraiment à aller regarder ce docu qui est
incroyable
sur Prime Video.
Ouais, ça s'appelle Ne montre jamais ça à personne.
Voilà, et qui est, je trouve très complémentaire les deux volets, parce que la première saison elle revient sur l'histoire d'Orelsan depuis qu'il a 15 ans, quoi, donc 20 ans, même plus 25, de carrière. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté très autoprophétie, dans le sens où, bah, comme c'est très condensé, on ne voit pas les moments de galère, et t'as que les moments de up, etc., où il y a assez peu de moments où ils sont en train de ramer, quoi, finalement. Au début, un peu...
Il y a quand même la phase de battle qui est énorme.
Ouais, tu vois, mais c'est tout petit. C'est-à-dire qu'on ne voit pas dans le fond ce qui s'est vraiment passé pour lui. On voit effectivement, après l'histoire du procès, etc., que effectivement c'est dur pour lui aussi, mais on ne le voit pas dans le quotidien. On comprend juste qu'effectivement ça a été dur pour lui. Et ce que je trouve dans le deuxième volet, c'est qu'on voit dans le quotidien justement ce qui se passe vraiment.
Parce que le temps est plus court.
Le temps est plus court, c'est ramassé.
Le premier montre toute l'ascension d'Orelsan filmée par son frère, alors que le deuxième montre l'écriture de son dernier album, donc qui se passe sur plusieurs mois ou une année, de l'idée de l'album jusqu'à sa sortie.
Enfin, c'est trop bien. Non, mais t'as raison.
Mais du coup, effectivement, c'est en plus resserré, donc on le voit vraiment écrire ses chansons, dire elles sont géniales, elles sont nulles, elles sont géniales, elles sont nulles.
Effectivement, ça ne viendrait pas, ça n'est pas ok de mettre ça dans le premier volet, parce que c'est trop anecdotique en fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais adoré t'avoir dans Histoire de succès. Alors que tu viens de sortir ton premier bouquin, c'est que je suis à peu près convaincu que dans 5 ans, quand tu auras eu 3 best-sellers énormes, tu te souviendras plus de ce que tu as raconté.
Mais je m'en souviens déjà plus.
Bah, moi non plus.
C'est un peu le principe des podcasts, c'est que tu parles, après tu dis « j'ai dit quoi déjà ?»
On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un tout nouvel épisode qui s'appelle « Savoir s'entourer et demander de l'aide ». On va parler de travail en équipe. Voilà. On vous fait des bisous et puis on vous dit RDV la semaine pro.
À la semaine prochaine.
Jeudi prochain. Bisous, 6h. Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.